toute l'actualité du jour avec vous, Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi commence avec Read My Lips, No, non, disent les Anglais.
Inaudible, la voix de Theresa May face à son Parlement qui vote contre elle. La chef du gouvernement britannique affronte un second vote ce soir sur la possibilité d'un no deal, une sortie de l'Europe sans accord. Le Boeing 737 Max n'en était pas à son premier problème. Bien avant le crash en Éthiopie, des pilotes américains ont signalé des incidents à répétition. Les Français applaudissent la qualité des soins médicaux, mais critiquent l'éloignement des hôpitaux et ne seraient pas contre forcer la main des praticiens pour repeupler les déserts médicaux, résultat d'une enquête publiée aujourd'hui. Et puis les médias répondent à la Ligue du LOL, une vingtaine de groupes s'engagent contre le harcèlement des femmes. Nuages, pluie, vent, c'est le programme demain. Le point météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde avec Amine Maalouf, ce soir écrivain, académicien, prix Goncourt, un observateur de son temps, de son levant, comme il dit. Même s'il vit chez nous depuis très longtemps, il signe un livre terriblement pessimiste sur l'état du monde qui s'appelle Le naufrage des civilisations. On essaiera quand même d'essayer de trouver quelques moments et moyens de se réjouir. Nous sommes aussi en Corée du Sud avec l'une des dernières femmes qui a servi d'esclave sexuelle aux Japonais pendant la guerre. Et c'est toujours une histoire qui empoisonne les deux pays. 19h20, le téléphone sonne, le couperet tombe à minuit jeudi. Les premiers vœux de Parcoursup, les 10 premiers vœux qui cette année ne sont pas classés, qui sont anonymes aussi. Alors est-ce que le système roule bien désormais? Est-ce qu'on a appris des tâtonnements l'an dernier? Est-ce que vous avez des questions de dernière minute? C'est le moment. 01 45 24 7000.
France Inter.
Et c'est donc une île qui ne cesse de dire non.
Non, non, non à l'Europe, non à l'accord pour sortir de l'Europe négocié par Theresa May avec Bruxelles. Ce soir, le Parlement à Londres vote encore sur l'option d'un no deal, un divorce sans aucun accord, une rupture nette et brutale le 29 mars prochain. La pire des solutions, selon la chef du gouvernement britannique. Le négociateur pour l'Europe, Michel Barnier, ne dit pas autre chose. On retrouve à Londres notre correspondant Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le no deal a-t-il quand même des chances d'être adopté ce soir?
Eh bien, c'est possible, mais c'est assez peu probable parce que même si plusieurs ministres continuent de plaider pour une sortie radicale de l'Union européenne pour faire peur à Bruxelles, pour, disent-ils, essayer d'arracher des concessions de dernière minute, la grande majorité des parlementaires et des hommes politiques appellent à rejeter ce scénario de no deal. David Cameron, l'ancien Premier ministre, responsable de l'organisation du référendum qui a conduit au Brexit, sort même pour l'occasion de sa réserve. Une sortie sans accord, dit-il, serait catastrophique et il demande à Theresa May de chercher des solutions alternatives.
Alors si le no deal est rejeté, Antoine, la suite du calendrier, c'est encore un vote au Parlement à Londres demain pour reporter la sortie, cette fois au-delà du 29 mars. Mais un report pour quoi faire, Antoine?
Oui, c'est toute la question. Ce délai, c'est ce que demandent les entrepreneurs, les financiers de la City. Pas trop long pour ne pas prolonger l'incertitude, mais suffisamment conséquent pour trouver une solution. Le comité de suivi du Brexit à la Chambre des communes confirme, le temps est écoulé, il n'y a plus d'autre alternative. Il faut donc demander une extension de l'article 50 et trouver un plan B qui se dessine peut-être cet après-midi. Philippe Hammond, le ministre de l'économie, demande aux députés de réfléchir à un Brexit peut-être plus doux que prévu, dans le style du partenariat entre Bruxelles et la Norvège, avec la possibilité de rester dans une union douanière, comme le propose Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes. Il reste à convaincre la gauche de participer à cette opération sauvetage du Brexit.
Antoine Gignot, en direct de Londres pour France Inter, merci à vous. Eux aussi continuent de dire non au pouvoir. En Algérie, les manifestations se poursuivent contre le président Abdelaziz Bouteflika, désormais accusé d'avoir renoncé à un cinquième mandat pour prolonger son actuel mandat ad libitum. Aujourd'hui, ce sont les enseignants et les élèves qui sont descendus dans la rue, dans la capitale Alger et dans de nombreuses autres régions du pays. La fin de la peine de mort aux États-Unis, en tout cas la Californie, annonce aujourd'hui un moratoire sur les exécutions dans cet État. 737 détenus vont ainsi pouvoir sortir du couloir de la mort. Le gouverneur Gavin Newsom, démocrate, fervent opposant à la peine capitale et en fonction depuis le mois de janvier, a promis de n'autoriser aucune mise à mort de condamnés. Les États-Unis ou les Boeing 737 Max ont toujours l'autorisation de voler, contrairement au Canada qui vient de les interdire de son espace aérien. Comme quasiment partout sur le globe, l'Europe, la Chine, l'Australie appliquent le principe de précaution après le crash de l'un de ces modèles en Éthiopie le week-end dernier. Sauf que Des pilotes américains parlent aujourd'hui et racontent des incidents quand ils ont pris les commandes de ce type d'avion. Des incidents à répétition, Grégory Philips, qui pouvaient indiquer qu'il y avait un problème avec ce 737 MAX.
À chaque fois qu'un incident se produit à bord de leur avion, les pilotes américains peuvent faire remonter l'information vers une base de données anonyme. Le Dallas Morning News a donc épluché ces données et recensé 5 incidents relatifs au Boeing 737 MAX. Et à chaque fois, c'est le système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l'appareil qui est en cause. Un copilote raconte, peu de temps après le décollage, le Boeing a piqué du nez pour une raison inconnue. On a donc enlevé le pilotage automatique et heureusement, on a pu redresser. Les 5 incidents sont similaires, se sont produits peu de temps après le décollage et rappelle ce qui s'est passé en octobre avec un premier crash meurtrier, celui de la compagnie indonésienne Lion Air en mer de Java. Un pilote écrit enfin que le manuel de bord du 737 MAX est inadéquat et incomplet. Pour l'heure, la FAA, le régulateur américain, ne fait aucun commentaire. Washington, Grégory Philips, France Inter.
Et les boîtes noires du Boeing d'Addis Abeba vont finalement être envoyées en Europe pour analyse. L'Éthiopie ne possède pas les équipements nécessaires pour faire la lumière donc sur le crash et la mort des 157 passagers personnels à bord. Au Kenya, le sommet pour le climat déjà endeuillé par ce crash, de nombreuses victimes s'y rendaient, et l'occasion de publier un rapport plutôt inquiétant. Un quart des morts prématurées et des maladies dans le monde sont liées à la pollution, aux émissions de particules toxiques dans l'air, aux produits chimiques contaminant l'eau potable ou encore à la destruction des écosystèmes. Mais la transition énergétique peut coûter cher aussi parfois. L'allemand Volkswagen annonce la suppression de 5 à 7 000 postes. Ses bénéfices sont en hausse pourtant, mais le constructeur se justifie par le coût du passage à l'électrique dans ses modèles, le coût des investissements dans les voitures propres et dans la conduite autonome également.
Il est 18h07 sur France Inter. Amélie, retour en France avec une préoccupation forte des Gilets jaunes et de nombreux Français. Et plus généralement l'accès aux services publics.
Et l'accès aux soins médicaux en particulier. Alors dans le cadre du grand débat, la Fédération hospitalière de France a commandé une enquête à Ipsos. Enquête massive hein, puisque 6000 personnes ont été interrogées. On leur a demandé leur ressenti sur l'organisation des soins. Bonsoir Véronique Julien.
Bonsoir.
Vous avez pu consulter les conclusions. Alors si personne ne se plaint de la qualité des soins prodigués en France, les critiques sont sévères sur l'organisation, sur l'éloignement des hôpitaux et sur les déserts médicaux.
Oui, le constat n'est pas nouveau, mais l'enquête donne des chiffres intéressants sur les délais d'attente. Notamment, il faut en moyenne près de 2 mois pour consulter un cardiologue, plus de 3 mois pour un ophtalmo. Les Français se plaignent aussi des distances à parcourir pour se faire soigner. En zone rurale, surtout, 39 minutes pour accéder à un service d'urgence, 44 minutes pour accéder à une maternité, 52 minutes pour arriver jusqu'à un grand hôpital. En zone urbaine, les délais sont 2 fois plus courts. On est au maximum de ce que les gens peuvent supporter, remarque Étienne Mercier. Il est chargé de l'enquête à Ipsos.
Le différentiel entre le temps actuel de trajet et le temps au-delà duquel les choses deviennent inacceptables, il est de 1 ou 2 minutes. On est donc à l'os, les Français n'accepteront plus aujourd'hui que certaines structures hospitalières soient beaucoup plus éloignées qu'elles ne le sont actuellement ou de certains professionnels de santé.
Près d'un Français sur deux reconnaît aussi être allé aux urgences cette année alors que son état de santé ne le justifiait pas, notamment parce qu'il ne trouvait pas de médecin disponible. Conséquence, 84% des sondés verraient d'un bon œil qu'on impose aux jeunes médecins de venir s'installer dans les déserts médicaux en début de carrière. Sans aller jusque-là, Frédéric Valtoux reconnaît que les 10 prochaines années vont être difficiles. Il préside la Fédération des hôpitaux publics.
On gère la pénurie de médecins, c'est ça la principale des pénuries aujourd'hui de notre système de santé, aussi bien dans le monde libéral que dans le monde hospitalier. On gère la pénurie et on sait que dans les 8 à 10 prochaines années, on va gérer chaque année un peu plus la pénurie.
Pénurie de médecins, manque de moyens aussi pour l'hôpital. Dans le sondage, les Français estiment que les personnels y sont mal payés, les infirmiers et les aides-soignants en particulier. 80% considèrent que ces professions ne sont pas rémunérées à la hauteur de leurs tâches.
Merci Véronique Julien. Et cette annonce de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, elle va rendre aux hôpitaux 300 millions d'euros en plus des crédits dégelés en décembre. Il s'agit de récompenser les établissements publics et privés qui ont moins dépensé que prévu l'an dernier, des efforts payants pour épargner l'assurance maladie. La roue rougeole n'est pas une maladie bénigne. Un premier décès vient d'être enregistré en France cette année. Si le nombre de cas en France est en baisse par rapport à l'an dernier, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF viennent de lancer une alerte face au rebond de la maladie dans le monde. Qui sont les escrocs? Ce pourrait être le titre de la dernière pièce de Bernard Tapie. L'homme d'affaires se présente comme acteur à l'énoncé de sa profession au tribunal correctionnel de Paris. Et depuis le début de la semaine, il rejoue le feuilleton de la vente d'Adidas et tente de donner son interprétation de l'arbitrage frauduleux qui lui a permis de toucher plus de 400 millions d'euros en 2008, un arbitrage annulé depuis. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Vous suivez l'audience. Alors Bernard Tapie a livré aujourd'hui sa version donc de l'arbitrage.
Oui, d'abord, le tribunal veut comprendre comment Bernard Tapie a plaidé sa cause auprès des gouvernements successifs. Là, il est assez direct. Mes relations avec Monsieur Sarkozy étaient à peu près les mêmes qu'avec tous les présidents, dit-il. Et à l'entendre, tous recherchaient ses conseils. Sauf que certains vous font passer par derrière. Je passais avec Monsieur Sarkozy par la porte d'entrée. Mais selon Bernard Tapie, la ministre Christine Lagarde était pour l'arbitrage. Le président n'aurait fait que donner son accord. On en vient aux trois arbitres, des noms prestigieux dont un ancien président du Conseil constitutionnel, ils ne vont pas remettre en cause leur carrière pour faire plaisir à Bernard Tapie, lance le prévenu. Et Pierre Estoupe, à qui il avait très chaleureusement dédicacé son livre 17 ans auparavant, non, il ne le connaissait pas vraiment, assure-t-il, moins convaincant cette fois. Son avocat rappelle que Bernard Tapie a aussi envoyé à Eva Joly un livre adressé à sa juge préférée. « Heureusement que vous ne l'avez pas trouvé au moment où elle m'avait mise en examen », s'exclame Bernard Tapie. « Elle a rendu un non-lieu, on aurait dit que c'était grâce à la dédicace. » Rire dans la salle, la présidente fait quelques rappels à l'ordre. Pourtant, Bernard Tapie était moins expansif qu'hier.
Merci Sarah Guibaudot, tribunal correctionnel de Paris. Une histoire de cagnante avant de terminer ce journal. Oui, il y en a beaucoup ces derniers temps. Celle-ci était pour un petit garçon, Tilian. Il a 6 ans, une maladie invalidante et ses parents à Gonesse, dans le Val d'Oise, ont ouvert un appel aux dons pour qu'il se fasse opérer à l'étranger. Une cagnotte sur internet et une tirelire déposée dans une supérette. Mais la tirelire, Delphine est venue. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour nous raconter cette histoire. La tirelire a donc été volée.
Oui, il y a 10 jours, pas grand-chose dedans, une cinquantaine d'euros. Une goutte d'eau face aux dizaines de milliers d'euros nécessaires aux opérations qui doivent permettre de soulager le petit garçon. Mais une goutte d'eau symbolique. Alors les gérants de la supérette mettent en ligne les images de la vidéosurveillance. On y voit un homme qui hésite et profite d'un moment d'inattention à la caisse pour mettre la cagnotte sous son manteau. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux, suscite l'indignation et la solidarité s'enclenche. La cagnotte que les parents de Tilian avaient lancée aussi sur internet passe en quelques jours de quelques 2500 euros à plus de 43 000 ce soir. Les opérations du garçon sont financées. Mais bien loin du joli récit comme internet peut en être friand, le voleur, lui, a été interpellé lundi après-midi. C'est un homme de 58 ans, sans antécédent judiciaire, travailleur pauvre qui vit dans sa camionnette. Il a expliqué aux enquêteurs chercher de quoi se payer une chambre d'hôtel pour la nuit.
Merci beaucoup Delphine Evenoux. Les médias répondent au scandale de la Ligue du LOL. Cette bande de journalistes hommes qui ont harcelé des consoeurs, femmes donc surtout, et des blogueuses. Une vingtaine de groupes viennent de signer une charte de bonne conduite contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes. Parmi eux, Radio France, TF1, Canal, mais aussi Havas ou encore SFR. Notre spécialiste des médias est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir.
Trois mots d'ordre dans cette charte. J'informe, je partage, j'agis.
Parce que les chiffres sont éloquents, le ministre de la Culture, Franck Riester, les a égrenés ce matin. Une femme sur deux dans les médias a déjà été victime de sexisme. Une élève sur 10 en école de journalisme sexuellement harcelée. Donc avoir de grandes entreprises qui s'engagent à changer les choses. Pour l'ancienne journaliste Françoise Laborde, fondatrice de l'association Les Femmes dans les Médias, qui a porté cette charte, c'est un succès, mais pas une fin en soi.
L'objectif, c'est que y ait de plus en plus de signataires et que cette problématique du harcèlement sexuel soit vraiment prise en compte et considérée avec sérieux.
Mais apposer sa signature au bas d'un texte, est-ce vraiment suffisant pour du changement? Question posée à l'un des rares hommes présents ce matin, le patron des antennes de Canal+, Gérald Brice-Viret.
Pour nous, c'est important. Et il faut faire attention à tous les types de dérives.
Ça veut dire que, par exemple, Cyril Hanouna, vous lui avez fait part de cette signature, par exemple?
Cyril Hanouna n'est pas sexiste.
Le changement, honnêtement, c'est surtout du côté des femmes qu'on le sent. Des patronnes de médias, comme Yasmina Jaffar, fondatrice de La Ruche Média, à qui une enseignante, il y a quelques années, a fait une drôle de réflexion.
Vous êtes une femme, vous êtes noire, grosse et arabe, donc vous ne ferez pas de télé, vous allez aller en BEP Compta. Je trouvais ça incroyable, j'avais 14 ans, donc ça choque. On ne comprend pas, on ne sait pas que c'est du sexisme à ce moment-là. Et le hashtag MeToo, quoi qu'il arrive, a apporté quelque chose aux hommes et aux femmes. Ils comprennent aujourd'hui que nous ne sommes pas des objets. Une porte est ouverte pour qu'on puisse être entendus. les choses vont changer. Je suis assez optimiste. Il faut vraiment qu'on ouvre notre bouche, quoi.
Et pour que cette parole soit entendue, parmi les engagements pris, celui de mettre en place des dispositifs d'écoute et d'aide aux victimes dans les entreprises.
Merci Alexandra. Et on n'est pas peu fiers ici à Inter, car la femme des médias de l'année a été élue donc par l'Association pour les femmes dans les médias. Et cette femme, c'est notre directrice, Laurence Bloch, récompensée pour son engagement constant pour mettre des voix de femmes à l'antenne. Vous l'avez entendu hein, dans ce journal, parmi les journalistes, donc dans les émissions et dans le choix des invités. Ça semble ne pas vous déplaire, étant donné les records d'audience battus dernièrement encore.
Et ben voilà, bravo beaucoup, merci. Bravo beaucoup, merci.
Voilà, donc, on le dit comme ça.
On le dit comme ça. Amélie, vous revenez quand même dans Sous les radars ou pas ?
Absolument, on va parler du Kremlin qui fait passer une loi anti-mafia. On parlera également de ces deux policiers arrêtés pour le meurtre de l'élu Marielle Franco qui avait révolté tout le Brésil. Et puis un joyeux anniversaire à Virginia McLaurin, 110 ans, une copine de Barack Obama.
Allez, il sera autour de 18h37. Amélie, à tout à l'heure. Ce soir, nous sommes avec l'académicien Amin Maalouf qui signe un bouquin très pessimiste sur l'état du monde. On verra s'il reste quelques occasions de se réjouir. Nous sommes en Corée du Sud avec une histoire de femme bafouée et violée pendant la guerre qui empoisonne toujours les relations entre les deux pays. Et puis je vous remets le téléphone sonne en tête. Parcoursup, saison 2, l'épisode 1 est bouclé demain soir, jeudi. Les vœux, les premiers, avant une autre phase qui, elle, démarrera le 3 avril. Alors, est-ce que vous avez des questions avant demain ? Est-ce que vous hésitez sur la stratégie à adopter ? Vous vous demandez peut-être en quoi on a progressé par rapport à l'an dernier. Mettez-vous sur la page de vos vœux devant l'ordi. Appelez-nous 01 45 24 7000.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et Sébastien Léas, de la pluie au programme de demain.
Oui, après les averses d'aujourd'hui, c'est la pluie qu'on attend demain à cause du passage d'une perturbation assez active qui va nous arriver tout droit des îles britanniques. Entre la Bretagne, la Touraine, l'ouest du Massif central et les Pyrénées, les pluies seront faibles et éparses. La couche nuageuse sera même moins épaisse dans le sud-ouest. En revanche, des pluies continues vont glisser de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, au nord-est et au centre-est dès demain matin. Ces pluies vont même devenir plus soutenues demain après-midi, notamment entre la Lorraine, la Franche-Comté et le Lyonnais. Et puis il va neiger en montagne. De fortes chutes de neige toucheront la Savoie avec 40 à 80 cm de neige attendue au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Le pourtour méditerranéen sera à l'écart et gardera un temps bien ensoleillé avec tout de même quelques débordements nuageux qui toucheront le Languedoc-Roussillon et l'ouest de la Corse. Et puis à noter le retour d'éclaircies demain après-midi sur le Nord-Pas-de-Calais.
Et sinon, toujours beaucoup de vent, Sébastien ?
Oui, un peu comme aujourd'hui, le vent sera encore soutenu sur la majeure partie du pays demain avec des rafales comprises entre 60 et 80 km par heure. Voire notamment plus du côté du littoral de la Manche ou encore autour du golfe du Lion. Pas d'évolution non plus côté température, les maximales restant stationnaires. Il fera 9 degrés demain après-midi à Aurillac, 10 degrés pour Metz, Strasbourg, Dijon et Grenoble, 12 degrés à Rouen et La Rochelle et 13 degrés pour Paris, Lille et Biarritz. Maximales plus douces dans le sud-est, 16 degrés à Montpellier, Ajaccio, 17 à Marseille et 19 degrés pour Cannes.